France Inter, le 18-20.
Bonsoir, cette fois les Britanniques sont au pied du mur. On saura dans la soirée, bien sûr, si la Chambre des communes vote pour ou contre cet accord de sortie de l'Union européenne. Les données du problème sont connues, hein. Projet d'accord contesté à la fois par l'opposition, mais aussi dans les rangs du Parti conservateur. Les plus farouches adversaires de l'Union déplorent que le texte ne prévoit pas de rupture nette immédiate. Le projet est aussi contesté par les partisans d'un maintien dans l'Union, conservateurs, travaillistes, libéraux-démocrates, car ils réclament tout simplement la fin du Brexit. Ce soir, donc, coup de projecteur sur les questions que tout le monde se pose. En cas de rejet, va-t-on s'acheminer vers un Brexit dur, le fameux no deal, ou y aura-t-il vraiment un Brexit? La question se pose aussi. En tout cas, Theresa May devra proposer un plan B d'ici lundi. Quel sera-t-il? Et surtout, quelles sont les conséquences pour les Britanniques, pour les citoyens européens? Brexit, l'heure du choix pour le Royaume-Uni. C'est le téléphone sonne Europe sur France Inter, c'est jusqu'à 20h. J'attends vos questions au 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne Europe. Stéphane Leneuf.
Au standard de France Inter, nous retrouvons Eric, vous nous appelez du Var. Bonsoir Eric, on vous écoute.
Oui, bonsoir, ma question est la suivante. Bonne année à vos invités et à vous-même. L'Union européenne envisage-t-elle de modifier ses règles de sortie de l'Union au regard des difficultés du Brexit? Parce que moi, en tant que citoyen français, quand je vois les difficultés que les Anglais ont à faire respecter le choix de la population, ils ont décidé de sortir de l'Europe, et quand je vois le micmac, on a l'impression que c'est un véritable carcan, et je me dis, est-ce que l'Union européenne va tirer un petit peu des leçons pour que cette Europe, elle nous paraisse quand même un petit peu plus souple? Il y a beaucoup de rigidité, et c'est ce que je déplore.
Merci Eric pour votre question. Autour de cette table ce soir, Jude Curtin-Darling, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée socialiste de Grande-Bretagne. Ingeborg Grässle, bonsoir.
Bonsoir.
Député PPE de l'Allemagne. Et Philippe Lamberts, bonsoir.
Bonsoir.
Belgique du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Qui veut répondre à Eric? Peut-être vous, Philippe Lamberts, vous allez ouvrir les discussions.
D'accord.
Rapidement, et après on fera le tour de la table.
Bonsoir Eric, bonne année à vous aussi.
Bonne année, effectivement, meilleurs voeux.
Alors, ce n'est pas une question de rigidité de l'Union. En fait, il y a un gros caillou dans la chaussure britannique, et c'est un caillou qui résulte des accords de paix en Irlande du Nord, intervenus il y a 20 ans, et qui, en fait, crée une contrainte que d'autres pays qui souhaiteraient sortir de l'Union n'auraient pas. Autrement dit, il y a ici une contrainte qui est l'absence de frontières entre l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, et la République d'Irlande, qui est un autre pays. Et en fait, ce qui permet l'absence de cette frontière, c'est l'appartenance commune à la fois du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, et de la République d'Irlande à l'Union européenne. Dès l'instant où le Royaume-Uni se retire, il doit néanmoins faire en sorte que, au moins entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, il reste un alignement très fort qui permet d'éviter le retour d'une frontière. Et c'est ça la contrainte, en fait, qui rend très difficile une rupture nette entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est là que se trouve la difficulté et pas dans la rigidité de l'Union européenne.
Madame Kittor-Darling, pardon.
Oui, je suis plus ou moins d'accord avec Philippe Lambert. La rigidité, c'est le problème, pas de le côté européen, de mon avis. Je crois que le côté de le côté européen dans le débat a été clair dès le début. Le Royaume-Uni peut quitter et on peut choisir un menu de différentes relations à l'avenir. Un menu qui est entre une relation très proche, comme la Norvège, jusqu'à quelque chose qui est plus loin, comme un accord libre-échange, comme le Canada. Et le problème chez nous, c'est que nous avons un gouvernement qui a fait la promesse après le référendum avec les lignes rouges qui sont complètement contradictoires. Et la contradiction, c'est autour de cette question de l'Irlande du Nord. Il n'y a aucune manière qu'on peut mettre les lignes rouges de le gouvernement en place et garder l'accord du pays de l'Irlande du Nord. Et ça, c'est le problème qui était dès le début de le débat jusqu'à maintenant. Le problème, c'est qu'on arrive près de la cloche de l'horloge.
Le 29 mars.
Et donc, la pression monte au niveau national, mais j'aimerais bien être clair qu'il n'y a aucune majorité au niveau national pour qu'on quitte sans accord. Donc maintenant, c'est vraiment une question, qu'est-ce que va arriver après le vote ce soir? Et dans ce débat, il faut être honnête que dans la campagne de le référendum, il y a eu beaucoup de mensonges et de malinformations. La promesse qui était faite, qui était impossible à livrer par n'importe quel gouvernement.
Ingeborg Grässle, on peut arriver quand même à trouver un terrain d'entente sur l'Irlande, parce que c'est là vraiment que Philippe Lamberts le disait, Madame Carney aussi, c'est vraiment là que ça coince.
Absolument. Étonnamment, il n'y a pas beaucoup de règles sur la sortie d'un pays. Mais bien sûr.
Il n'y en a même aucune ? Très, très peu,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça, c'est l'article 50 qui donne un certain calendrier, mais le reste est à négocier. C'est clair qu'il y a des règles qui constituent l'Union européenne, la manière de faire des choses. Et c'est ces règles-là qui sont là pour tout le monde, y inclut la Grande-Bretagne. Alors, à mon avis, la question de l'Irlande du Nord, ce n'est pas à résoudre. Il n'y a pas de solution que l'union douanière. Mais même là, il y a des points où il faut vraiment discuter. Mais c'est clair que l'union douanière lie la Grande-Bretagne après pour les accords de libre-échange avec d'autres pays, pas avec les pays de l'Union européenne, avec d'autres pays. C'est-à-dire, dès le début, vu la situation de l'Irlande du Nord, c'était un non-starter. C'était vraiment une impasse totale et c'est là où on est maintenant. Et je regrette que les hommes et femmes politiques britanniques, ils n'ont pas compris ce que c'est l'Union européenne. Je n'ai pas d'autres conclusions à tirer.
Ce soir, Theresa May a toutes les chances, finalement, de connaître une défaite. La vraie question, en fait, visiblement, c'est de savoir quelle sera l'ampleur de cette défaite. Si vraiment elle est battue sèchement, est-ce qu'on peut assister à une démission dans la soirée, Madame Kirton-Darling?
Dans le temps normal politique, on dirait que si le gouvernement est battu dans un vote pareil,
il démissionne.
Immédiatement, le gouvernement démissionne et il y a une élection nationale. Ça, c'est le temps normal politique. On n'est pas dans le temps normal politique au Royaume-Uni. On est dans une...
On est dans l'irrationalité complète.
On peut dire, je ne sais pas si c'est bien connu en France, mais on a les histoires de Lewis Carroll par rapport à Alice in Wonderland. Et on dit que chez nous, on est vraiment traverse le trou de lapin dans le niveau politique. Donc, il y a, de mon avis, très peu de chances que Theresa May va démissionner ce soir. La grande question, c'est que la question d'ampleur de la défaite. Et nous, on a subi une semaine où tous les médias disent que ça va être 200 députés qui votent contre le gouvernement, ça va être 100 députés qui votent contre le gouvernement. Si l'ampleur est moins que 100 députés qui votent contre le gouvernement va dire c'était une bonne journée à Westminster, on est OK.
On a perdu, mais finalement, ça s'est pas si mal passé.
Oui. Philippe Lambert. Oui, je voudrais revenir sur ce que Judith Curtin-Darling a dit concernant le fait qu'une majorité de députés ne veulent pas d'un Brexit sans accord. C'est une majorité de type négatif. Autrement dit, nous ne voulons pas d'un Brexit sans accord, mais nous ne voulons pas l'accord non plus. Le problème, c'est que le Brexit sans accord, c'est ce qui se passe si demain, après le vote, tous les députés britanniques se mettent en congé pendant 3 mois. Autrement dit, le processus qui est en mode automatique aujourd'hui, c'est la sortie sans accord. Donc en fait, pour éviter ce scénario, il ne suffit pas de dire on ne veut pas de ce scénario. Il faut une majorité positive pour un autre scénario. Donc si ce n'est pas l'accord, si c'est pas
l'accord... Majorité positive qu'on n'a toujours pas aujourd'hui.
Ah non, et le problème c'est qu'on n'y voit pas clair. Et donc certains amendements vont être déposés ce soir qui permettront d'un peu d'éclairer. Mais ce qui pourrait aider, c'est quelque chose que Theresa May a envisagé, c'est de procéder, si le projet d'accord est défait à la Chambre, c'est de proposer une série de votes indicatifs quant à différents scénarios d'accord avec l'Union européenne. Et ça, je pense que ça pourrait aider à clarifier le débat. Est-ce que vous voulez un accord de type Norvège plus l'Union douanière? Est-ce que vous voudriez est-ce que vous acceptez finalement le deal tel qu'il est? Est-ce que vous voulez un référendum, un deuxième référendum qui soumette finalement la décision entre l'accord et l'accord de séparation et le maintien dans l'Union européenne? Est-ce que vous voulez soumettre ça au peuple? Est-ce que vous voulez de nouvelles élections? Mais ça serait intéressant de savoir où se trouve la majorité. Et notre position, et là je parle de nous et de nos amis au Royaume-Uni, c'est-à-dire à la fois les Verts britanniques, les indépendantistes écossais, etc., c'est de dire si la Chambre des communes ne peut pas trouver une majorité positive, alors il faut retourner au peuple. Parce que seul le peuple pourra dire... Finalement, s'il est satisfait d'un Brexit aux conditions qui ont été déterminées de commun accord, ou au contraire, rester au sein de l'Union européenne.
Avant de retourner au standard, Mme Kirton-Darling et Mme Grassley après, est-ce que Theresa May peut effectivement prendre cet acte politique de retourner au référendum, soit un référendum en disant voilà, l'accord est là, c'est à vous de décider, soit sur de nouveau un référendum Brexit?
Oui, tout à fait. Le vote qui a passé la semaine passée dans la Chambre commune pour dire on est pas d'accord pour le no deal, pour sortir sans accord. Et on veut que le gouvernement revienne dans 3 jours pour présenter le plan B. C'est exactement pour arriver à une situation, comme Philippe disait, que en fait, le problème, c'est que Theresa May peut pousser, postponer le débat, pousser jusqu'à le dernier moment et puis revenir avec presque le même accord, cela donne l'impression que si elle revient à la dernière minute, les gens, les députés vont sentir absolument poussés à voter pour un accord qu'ils ne sont pas d'accord. C'est ça son plan de début, c'était clair. Donc c'est à cause de ça que les députés ont pris en main l'ordre de business de la Chambre commune pour dire qu'elle doit revenir au plus tard lundi pour dire quel est le plan. Et certainement, il n'y a pas une grande majorité pour n'importe quelle voix aujourd'hui, mais cette majorité va venir. Et à mon avis, la campagne pour le People's Vote va augmenter beaucoup dans les prochains jours à venir. C'est une campagne que moi, je fais partie. Je crois que c'est la seule manière qu'on peut sortir de cette impasse, c'est de revenir vers le peuple et dire, est-ce que c'est ça que vous avez voté en 2016?
Madame Gresson, on ira au standard.
Mais votre parti, le Parti travailliste, ne supporte pas cette solution. Je trouve complètement irresponsable ce que font les Tories, mais je trouve aussi irresponsable ce que font le Labour Party, parce qu'ils ne voient pas la chance d'avoir cet accord-là pour le peuple britannique. C'est la tentation de faire chuter le gouvernement est plus grande que de faire quelque chose de constructif. C'est ce que je trouve très déplorable et cette stratégie ne va pas se payer pour le Parti travailliste, croyez-moi.
Monsieur Corbyn fait plus de politique intérieure que de politique européenne, à votre avis?
Non, mon avis, c'est que, en fait, nous, moi, je parle avec les gens dans les rues dans ma région qui a voté largement pour le Brexit en 2016 et je crois que la stratégie Labour, c'est d'apporter le peuple avec nous dans ce débat. Et ça, c'est vachement important parce que le grand parti de les gens de ma région qui ont voté Brexit, c'est un vote contre Londres, en fait. C'est un vote contre l'élite politique britannique, aussi que l'Union européenne. Donc, c'est je ne vais pas entrer dans ce débat, mais la question, c'est qu'il faut aller avec le gens. Donc, nous, la première chose, c'est que ce gouvernement ne peut pas gérer le pays par rapport à la question Brexit, mais on a beaucoup de questions au niveau national aussi qu'ils sont en train de mal gérer. Donc, le premier truc, c'est d'avoir une élection générale. Comme j'avais dit, en le temps normal, un gouvernement comme nous avons aurait parti vers l'élection naturellement. Mais dans notre politique, c'est d'abord demander une élection générale. Si ça n'arrive pas, toutes les options sont sur la table, aussi le People's Vote. Et moi, je fais campagne au sein de ma parti pour dire, OK, maintenant c'est le temps. Cette semaine, on pose la question s'il y aurait une élection générale. Si on n'a pas une élection générale nationale, alors là, on doit mettre tout le pouvoir de la parti, toute la pression de la parti derrière le People's Vote, parce que c'est le seul moyen de sortir de ça. Mais la question n'est pas fermée dans le Parti travailliste.
On retourne au standard. André, vous nous appelez de Bretagne au 01 45 24 7000. On vous écoute, André. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bah, écoutez, j'ai été candidat en 2009 aux élections européennes. J'ai été prof des institutions européennes. Quand j'entends ces discours, on nous parle à chaque fois... Ah, c'est très grave, le Brexit, c'était la même chose pour la Constitution européenne. Si le non l'emportait, c'était la catastrophe économique financière. Or, depuis le Brexit, l'économie anglaise, qu'on veuille ce qu'on veut, mais regardez les marchés financiers. Les marchés financiers se portent très bien, ils se portent mieux que les autres marchés européens. La livre, elle se porte pas si mal que ça. Donc on nous annonce des catastrophes. Si le Brexit, premièrement, si les gens votaient pour le Brexit, si les Anglais votaient pour le Brexit, et maintenant on nous annonce une catastrophe s'ils n'adoptent pas la proposition qu'a fait l'Union européenne. Mais les Anglais se retournent toujours très bien, comme en Europe ça se passe toujours très bien. Les pays ont une capacité, il faut lire le livre de Lutwatanski, Nouvel esprit du capitalisme. Le capitalisme anticipe toutes les situations à venir, tous les problèmes à venir, et à chaque fois, il s'en sort très bien. Il n'y a pas de catastrophe économique, il n'y a pas de catastrophe financière. Il faut donc arrêter de nous faire peur si tel ou tel pays n'adopte ou n'adopte pas, ou si, justement, concernant le Brexit, on adoptait les Anglais, ce qui va se passer, le Parlement anglais refusait de prendre en compte la proposition européenne. Les Anglais s'en sortiront très bien, vous verrez.
Merci André. Est-ce qu'on va vraiment effectivement... Alors, si on regarde les chiffres, on ne va pas tous les citer là, mais c'est vrai que toutes les études démontrent, expliquent qu'on va vers une catastrophe économique. Alors, effectivement, on ne peut pas donner tout à fait tort à André, parce qu'effectivement, on annonçait un petit peu la même chose en 2005, il ne s'est rien passé.
Oui, bonsoir André, je suis d'accord avec vous pour dire qu'on ne mène pas une campagne en agitant toujours l'étendard de la catastrophe potentielle. En effet, je suis d'accord avec vous, nos sociétés ont beaucoup de ressources, et donc la catastrophe économique annoncée par les partisans du maintien au sein de l'Union européenne pour le lendemain du référendum ne s'est pas manifestée. Bien évidemment qu'elle ne s'est pas manifestée, parce que les décisions d'investissement sont des choses qui se prennent dans la durée et pas dans l'instant. Donc dans l'immédiat, le Royaume-Uni n'a pas été impacté. Ceci étant, tous les observateurs économiques s'accordent à dire que son économie est en moins bonne posture que l'économie du reste de l'Union européenne aujourd'hui, justement à cause de l'incertitude. Et quand vous dites que le capitalisme s'adapte toujours, je constate en tout cas que le capitalisme n'a pas anticipé l'épuisement des ressources et le bouleversement climatique. Et donc je pense qu'on lui prête des vertus qu'il n'a pas toujours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les décisions d'investissement se sont retardées, et c'est très clair que l'impact d'un éventuel départ de l'Union européenne se ressentira sur la durée. Par contre, s'il y a une sortie sans accord, alors là, on a clairement une rupture, c'est-à-dire que vous allez passer de frontières à la fois en Irlande et dans la Manche, sur lesquels il n'y a pas de contrôle, du jour au lendemain, à des frontières où nous devrons procéder à des contrôles, puisque le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union, et donc, potentiellement, adoptera des lois qui seront totalement différentes de celles de l'Union. Et donc, la simple matérialisation, la mise en place de ces contrôles, se traduira par des ruptures logistiques extrêmement importantes. Même chose pour les vols. Aujourd'hui, nous avons un ciel unique européen qui permet à n'importe quel avion de décoller et de se poser n'importe où dans l'Union européenne. Dès l'instant où vous êtes un État tiers, vous devez négocier des droits de décollage et d'atterrissage bilatéralement avec 27 États, enfin entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc tout ça devra se remettre en place. Donc dire qu'une sortie sans accord sera indolore, elle sera douloureuse pour le Royaume-Uni comme elle sera douloureuse pour nous, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas permis au Royaume-Uni de partir. Simplement, nous avons négocié les conditions du départ. C'est, vu les contraintes de l'accord de paix irlandais, c'est à peu près le seul accord qu'on peut aujourd'hui proposer au Royaume-Uni. Et donc, si le Royaume-Uni, si une majorité à la Chambre ou si une majorité du peuple britannique nous dit « cet accord nous va », pas de problème. Je veux dire, nous n'allons pas retenir le Royaume-Uni contre son gré, simplement. Il y a des contraintes, et ces contraintes, il faut les respecter parce qu'elles procèdent d'accords internationaux, notamment les accords de paix en Irlande du Nord. Et croyez-moi, le risque de violence en Irlande du Nord existe toujours.
Madame Carton-Darling, ces derniers jours, Theresa May a dramatisé son discours en disant si on n'a pas cet accord, c'est le chaos. Est-ce que vous, par exemple, dans votre circonscription, c'est un discours qui a porté ? Est-ce que c'est un discours que les Britanniques entendent aujourd'hui ?
Mais la réalité, c'est moi, je suis en contact presque chaque journée avec les syndicalistes de terrain qui sont en train de gérer déjà les démissions à cause de Brexit. Donc, quand j'entends les gens disent qu'il n'y a aucun impact de Brexit, il faut aller parler avec les gens qui travaillent dans le fabrique de voitures de Jaguar Land Rover qui a annoncé 3000 démissions cette semaine. Il faut parler avec les gens qui n'ont pas reçu l'investissement qui était prévu parce que il y aurait beaucoup d'investissements qui étaient prévus mais qui va pas arriver. Donc c'est difficile à calculer qu'est-ce qu'on a perdu entre-temps. L'incertitude est déjà en train d'avoir un impact sur le salaire, sur les négociations collectives au niveau de le salaire. Et dans ce débat, on doit dire que le gouvernement met la pression pour dire que le Brexit sans accord va être catastrophique parce que Theresa May veut pousser les gens à être d'accord avec son accord qu'elle a négocié. Elle veut dire qu'il n'y a aucune alternative. C'est mon accord ou c'est la catastrophe. Ça, c'est une partie de la politique qu'elle joue. Et nous, au niveau du Parlement national, au niveau de la Chambre de communs, on est en train de montrer que ce n'est pas le cas. Il y a différentes alternatives. Il y a une option Norvège plus. Il y a une option d'un vote, a people's vote. Il y a une option de rester comme on est aujourd'hui. Tout ça, c'est toujours possible sur la table. Mais il y a une deuxième chose que j'aimerais bien répondre à André. C'est qu'il y a une grande différence entre un vote sur une constitution qui était proposé comme un texte pour l'avenir et un divorce après 40 ans de mariage. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Le vote sont complètement différents. L'impact de la décision sont complètement différents. Et ça sert à rien et ça aide personne de faire une comparaison de le vote en France avec Brexit. Parce que l'impact...
Ce sont deux choses totalement différentes. Deux votes totalement différents.
Et donc, je crois que, oui, je suis d'accord avec Philippe que dans nos discours politiques, on doit vite avoir de mettre le peur en avance. Ça serve pas à grand chose
donc,
dans le long terme.
Donc, Theresa May, finalement, a eu tort, effectivement, de dramatiser la situation en outrance comme elle l'a fait ces dernières heures.
Mais ça montre son désespération, en fait. C'est le fait qu'elle va si loin, c'est comme George Osborne dans la campagne de le référendum qui a sorti un budget d'austérité en cas de Brexit. En fait, ça a poussé les gens à voter contre le gouvernement parce qu'ils ont dit le gouvernement est en train d'exagérer tellement. Mm-hmm. C'est pas utile comme politicien. Mais en même temps, on ne doit pas dire que la situation actuelle en Royaume-Uni est une situation économique parfaite. Ce n'est pas du tout le cas. Et si tu parles à les gens, certainement dans le secteur industriel, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et il y a déjà la question de démission qui est vraiment inquiétante dans la situation actuelle.
Madame Gresselin.
Tout à fait. Alors, je crois que on est face à une grande rupture, et une rupture violente, ça c'est déjà clair, et ce n'est pas rien. Alors la Grande-Bretagne perd accès à 752 accords internationaux, dont il y aura moins de sécurité pour la Grande-Bretagne, et les riches n'ont pas besoin de règles, il y aura bien moins de règles, et c'est le peuple normal qui va en souffrir. Et je crois que ça va être... On est parti maintenant pour des années de chaos, parce que pour avoir ces accords internationaux, bon, accès à des databases pour échanger
d'accord
des
de
data...
transport aérien, tout simplement.
Oui,
on en parlait tout à l'heure,
mais
Philippe Anglers en parlait tout à l'heure.
Même point de vue sécurité, on a fait l'échange avec les databases sur des criminels des pays tiers. Là, la Grande-Bretagne perd accès à ça. Alors, tout peut se passer entre-temps, jusqu'à ce qu'on ait le temps de renégocier ça. Je crois que si on ne croit pas que c'est une catastrophe, alors bon... Peut-être pas catastrophe, mais c'est une situation très, très grave pour le peuple britannique et pour les gens qui ne sont pas riches. Et je crois qu'il y a les Brexiteers, ils voulaient écarter les règles. Et c'est ce qui me préoccupe quand je vois le nombre des gens qui travaillent dans les investissements. Je me demande pourquoi ces gens-là, ils ont tous voté le livre parce qu'ils ne veulent pas des règles. C'est pour ça, qu'est-ce que devient la Grande-Bretagne? Ça doit nous être un souci, vraiment.
On retourne au standard, 19h45 sur France Inter, en direct du Parlement européen. Le téléphone sonne Europe jusqu'à 20h. Philippe, vous nous appelez de Paris. On vous écoute, Philippe. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Et bonsoir à vos invités. Et bonne année à France Inter, qui visiblement, pour laquelle visiblement ça commence bien. Moi,
très
j'ai
bien,
une
merci,
question
Philippe.
Pour... Vos intervenants, comme les invités, évoquent depuis tout à l'heure les potentielles conséquences économiques pour la Grande-Bretagne du Brexit. Mais je me pose la question, quelles en seraient les conséquences pour les pays de l'Union européenne continentale, et en particulier pour la France, en fonction des différentes options envisageables, no deal, accord Theresa May, ou enfin, on ne peut pas dire nouveau référendum parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il en sortirait. Voilà.
Merci Philippe. Philippe Lambert.
Alors, il est évidemment difficile
les
de prévoir...
Les conséquences économiques,
bonsoir,
c'est
Philippe.
Côté continent. Hein.
Oui, oui, donc nous partageons le même prénom. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les pays directement frontaliers du Royaume-Uni seront fortement impactés vu la proximité. Je pense évidemment à l'Irlande, je pense à la France, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, au Danemark, donc les pays qui sont, je veux dire, sur la ligne frontalière avec le Royaume-Uni. C'est évident que sur le plan logistique, si vous avez des files de dizaines de kilomètres de camions à Calais, à Boulogne, à Dunkerque, ben, ça pose des problèmes, donc ça c'est très clair. Mais en fait, les conséquences les plus fortes sont des conséquences au niveau de l'intégration des chaînes logistiques. Pensez à Airbus, je pense, c'est un bon exemple, où l'assemblage final des avions qui se passe à Toulouse ou à Hambourg dépend de pièces qui sont convoyées journellement.
Notamment les ailes d'avion qui viennent d'Angleterre.
Qui viennent du Royaume-Uni, transportées par avion dans les différents sites de production d'Airbus. Et donc là, le fait de ne plus avoir le ciel unique européen aura des conséquences. Alors certains pourraient aussi dire, ben finalement, le Brexit, c'est une opportunité, puisque le fait que le Royaume-Uni se trouverait en dehors de l'Union fait qu'un certain nombre d'acteurs, je pense aux constructeurs automobiles japonais, je pense à des firmes d'investissement qui s'étaient implantées au Royaume-Uni parce qu'on y parle anglais, on a une infrastructure juridique stable et cet État est un membre du marché intérieur.
Ça permettait surtout d'accéder effectivement au marché intérieur, on est d'accord.
Et donc c'est très clair que dans le chef de certains responsables politiques, j'ai entendu des discours du type « sautons sur l'opportunité, il y aura des activités économiques à aller chercher ». D'ailleurs, Emmanuel Macron a, je pense, désigné quelqu'un pour activement démarcher les acteurs financiers, pour renforcer le rôle de la place financière de Paris. Mais je pense que c'est un jeu à somme négative. Autrement dit, oui, ponctuellement, il peut y avoir des opportunités à prendre, mais collectivement, en fait, le fait que l'Union européenne perd un membre majeur, parce que c'est pas Malte qui quitte l'Union, je veux dire, c'est un pays de 65 millions d'habitants, et une puissance économique et financière importante.
Et militaire.
Et donc, c'est très clair que, vous savez, la devise de mon pays, c'est l'union fait la force. Et je pense que c'est une devise qui s'applique particulièrement bien à l'Europe. Le fait de perdre un État membre, c'est mauvais pour nous, pas seulement économiquement. Et je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas regarder les choses uniquement de manière économique, mais de manière politique. C'est très clair qu'aujourd'hui, qui se réjouit de l'éventuelle désintégration de l'Union européenne, c'est Vladimir Poutine, c'est Donald Trump, c'est Xi Jinping, c'est essentiellement des puissances géopolitiques qui ne nous veulent pas que du bien. Et donc là, je raisonne d'abord en termes politiques, ensemble on est plus fort. Et c'est sûr qu'on peut ne pas toujours être d'accord avec les positions de tel ou tel gouvernement. J'ai été en désaccord avec certains gouvernements britanniques, comme je le suis avec des gouvernements d'autres États de l'Union, y compris le mien. Néanmoins, l'Union fait la force. Et je pense qu'on gagne lorsqu'on pèse plus lourd. Les Européens, c'est 7% de la population du monde, britannique inclus. 7% et demain 5%. On a bien compris que si on veut peser, c'est ensemble, on n'y arrivera pas.
Madame Carton, darling, si il n'y a pas de deal, si on rentre dans le no deal, y a-t-il un risque que la Grande-Bretagne, Theresa May, un gouvernement conservateur, pratique une politique fiscale, un dumping fiscal, justement, pour préserver son économie?
Oui, tout d'abord, si on est dans une situation d'un accord sans deal, Theresa May serait pas là, de mon avis. Elle serait partie très, très vite. Et en fait, même s'il y a un deal, Theresa May serait partie très, très vite. Et les gens qui veulent le poste de premier ministre, il faut regarder qu'est-ce qu'ils ont dit dans le passé. Et il y a beaucoup de ministres dans le gouvernement britannique qui rêvent d'un Royaume-Uni qui est enlevé de la règle européenne, qui est libéré de la règle sur le droit du travail, libéré de la règle sur le taxe, libéré de la règle environnementale. Ça, c'est le but, en fait. C'était ça, le rêve Brexit de l'extrême droite en Royaume-Uni. Et l'extrême droite de la Parti conservateur, je veux préciser. Et donc, oui, certainement, si on est no deal, on est dans une situation où, politiquement, il y a les forces nationales qui voient l'opportunité pour le Royaume-Uni, c'est une concurrence
déloyale
avec l'Union européenne. Ça, c'est, je crois qu'ils sont vraiment honnêtes. Tu peux lire le discours qui dit exactement ça. Boris Johnson, quelques semaines passées, a dit précisément ça quand il a démissionné de le gouvernement. Donc, ils ne cachent pas leurs objectifs et ça, c'est un objectif. C'est à cause de ça que nous, en tant que travaillistes, on aimerait bien une lien très, très fort, et surtout sur les questions du droit du travail environnemental. Parce que pour beaucoup d'années, c'était en fait l'Union européenne qui a défendu le droit de peuple britannique. Ironiquement, dans la situation actuelle, parce que moi, je viens d'une région, une des plus pauvres de l'Angleterre, qui a voté massivement pour quitter. Mais en fait, le droit du travail de les gens qui travaillent à côté de moi à la maison sont basés la plupart sur le droit européen, beaucoup plus que dans d'autres pays européens, où le droit du travail national est beaucoup plus élevé que le minimum européen. Mais chez nous, le minimum européen, c'est plus ou moins le maximum national. Ouais. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose que
Les gens chez vous, dans votre circonscription, ont conscience de perdre ça?
Certains, je vais dire. Le débat dans le référendum était surtout sur l'immigration, mm-hmm, dans ma région. Mm-hmm. On est une région où il y a très peu de gens qui viennent d'ailleurs dans la région. On est la région avec le le moins d'immigrés. Et on a une région qui connaît les de-industrialisation.
Et c'est la région qui a voté le plus en faveur du Brexit.
C'est la région qui a voté le plus en faveur de Brexit. C'était un vote contre la classe politique, un vote contre le status quo, les gens qui sont en douleur. Et l'extrême droite, ils ont utilisé l'immigration pour faire un appel, pour dire que c'est pas à cause de la situation nationale, c'est à cause de cet étranger qui est venu dans la région qui est faute. Mais nous, on est une réalité que c'est vraiment le droit des gens qui sont en question. Et c'est ça qu'on est en train de se battre pour défendre dans le débat au niveau national, dans la Chambre des communs. Mais aussi, on est en train d'essayer de pousser ce message pour pousser à côté ce débat sur l'immigration qui n'est pas vraiment relevant dans la vie journalière des gens de ma région pour mettre en place le vrai débat qui est sur le taux, le purchasing power,
le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat et le droit au niveau du travail.
Au standard sur France Inter 01 45 24 7000, Martial, vous nous appelez de Fayence. Bonsoir, on vous écoute, Martial.
Oui, bonsoir à tous. Bon, le problème, semble-t-il, est en Irlande du Nord. Pourquoi on ne demanderait pas aux Irlandais du Nord de voter pour rester dans l'Union européenne? Et puis on déplacerait la frontière entre l'Irlande et puis l'Angleterre. Non?
Merci Martial pour votre question. Je pense que le vote serait sans surprise parce que ça a voté massivement contre le Brexit.
Moins massivement qu'en Écosse.
C'était 51%. L'Irlande du Nord a voté pour rester dans l'Union européenne. Et même... Ça ne servit à rien. Et c'est clair que s'il y a un référendum, un second, il faut le faire dans tout le pays. Ça, c'est clair.
Alors, c'est sûr que sur le papier, c'est une solution. Bonsoir, Martial. Mais c'est évidemment une solution qui suppose que le Royaume-Uni ne soit plus si unique que ça, ou en tout cas perdu une de ses quatre nations composantes. En tout cas, dans les accords de paix de 1998, il est prévu la possibilité de procéder à un référendum en Irlande du Nord quant à une éventuelle réunification. Et c'est vrai que si vous regardez la démographie de l'Irlande du Nord, c'est très clair qu'elle favorise celles et ceux qui sont plutôt favorables à un rattachement à la République d'Irlande. Néanmoins, de nouveau, moi je regarde la dynamique de l'accord de paix. En Irlande, même s'ils deviennent minoritaires, les unionistes, c'est-à-dire les partisans du maintien au sein du Royaume-Uni, sont également là. Et le risque que nous courons, si nous voulons forcer une solution dans un sens ou dans l'autre, est que la violence se déchaîne à nouveau en Irlande du Nord. Et ça, franchement, je ne pense pas qu'un seul responsable politique digne de ce nom peut le souhaiter. Et donc, sur le papier, très séduisant, mais pratiquement aujourd'hui, ça ne représente pas une solution.
Question aussi de Françoise par Internet. Comment se fait-il qu'on n'ait pas abordé cette question de l'Irlande avant, effectivement, de lancer le Brexit, Madame Carton-Darling?
Oui, effectivement. Nous, on a mis la question d'Irlande du Nord sur la table dans le référendum. On a fait la conférence. J'ai une grande population irlandaise dans ma région. Les gens qui ont venu de l'Irlande pour travailler chez nous, qui ont construit la ville d'où je viens, c'est une ville irlandaise en Angleterre. Mais le débat était sur l'immigration. Le débat sur l'Irlande n'a pas monté dans les priorités nationales. C'était pas discuté.
Le sujet n'était pas d'actualité,
oui,
en quelque sorte.
Et même quand on a eu un débat politique, par exemple, sur la télé qui est venu de Belfast, il y a eu le ministre responsable pour l'Irlande n'a qui a dit: dans le cas de Brexit, aucun problème. Il n'y aurait aucun problème pour l'Irlande. Ils ont dit qu'il n'y a aucune frontière qui serait mise en place. Et donc, il y a eu le mensonge dans le débat là-dessus. Et c'est maintenant que le mensonge et la réalité se frappent face à face. Et on est dans la situation qu'on se trouve aujourd'hui. La chose importante à ajouter à ce que Philippe avait dit par rapport à l'Irlande, c'est qu'on a une histoire de 300 ans entre l'Angleterre et l'Irlandais. Et cette histoire a terminé en 98 avec un accord qui a fait qu'il y a un accord de paix. Le Royaume-Uni fait partie, le gouvernement irlandais fait partie, l'Union européenne fait partie. La chose ironique qui va sortir de Brexit, c'est que s'il y a une sortie sans accord, et si quelqu'un décide, parce que cet accord de paix a un poids juridique, hein. C'est un traité international. Le truc ironique, c'est que c'est le corps européen qui est responsable pour une dispute. Donc, on peut trouver que quelqu'un prend un cas avec le corps européen pour défendre le corps du pays contre le Brexit. Et dans ce cas, je crois que le journal de droite britannique va exploser la tête par les oreilles.
Y a-t-il une hypothèse ajournement du Brexit? Madame Gressler.
Je ne crois pas, non. Parce que c'est clair, il y a les élections européennes, alors il faut faire quelque chose. On ne peut pas rajourner le Brexit, sauf s'il y a élection ou sauf s'il y a un deuxième référendum. Voilà. Ça, il y aura une raison de l'extérieur. Mais sinon, je ne crois pas que Theresa May va partir. Je crois qu'elle va continuer grâce à son parti qui ne suit pas avec l'accord avec l'Union européenne, mais qui veut rester en pouvoir. C'est pour ça que je crois qu'on est parti pour des années tristes en Grande-Bretagne où rien ne bouge.
Prolongement de ma question, y a-t-il possibilité d'un nouvel accord avec l'Europe?
En tout cas, Philippe pas d'un autre accord. Je veux dire que les contraintes resteront les mêmes. Les contraintes posées par l'accord de paix en Irlande du Nord resteront, et c'est ça qui crée la difficulté. Et donc, il peut y avoir un autre accord si le Royaume-Uni, par exemple, dit « Eh bien, j'accepte une forme de fédéralisme à l'intérieur du Royaume-Uni et j'accepte un traitement différencié pour l'Irlande du Nord du reste du pays. » Alors, en effet, je vais dire, on aura un quasi-maintien d'Irlande du Nord au sein de l'Union, tout en restant dans le Royaume-Uni, mais avec un statut spécial. Mais cette divergence, visiblement, est inacceptable pour les unionistes d'Irlande du Nord, mais aussi, je dirais, pour la composante la plus brexiteur du parti conservateur. Et donc, c'est bien ça le problème. Nous étions prêts à envisager cette possibilité-là. Maintenant, si tout le Royaume-Uni veut rester dans le marché intérieur et dans l'union douanière, le problème est résolu. Mais alors, franchement, vous avez vraiment envie d'appliquer les règles douanières, d'appliquer tout le droit européen et de ne pas être à la table où
bon,
on décide?
Première réponse tout à l'heure avec le vote à la Chambre des communes. Merci, on arrive au terme de cette émission. À la réalisation à Paris, Fabrice Legge, assisté d'Amélie Stadelman, et ici réalisation Jean-Christophe Pêcheur, assisté de Jürgen Schmidt, Sarah Tanguy et Joseph Oster. Dans quelques instants, il sera 20h sur France Inter.